Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio des stratégies et développement.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et start-up ont aiguisé notre sens business, sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe.
Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe.
Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors, je suis comme d'habitude avec mon associé brésilien à l'accent si enivrant, Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Et aujourd'hui, on va parler de retraite. Alors je vous rassure, on ne va pas parler du sujet qui a divisé la France ces derniers mois. On va parler de retraite, mais de façon un peu plus légère, quoique c'est quand même un sujet sérieux. On va parler de la retraite des poules pondeuses. On a la chance aujourd'hui d'être avec Fabien Solman et Sébastien Neusch, les fondateurs de Poolhouse. Donc bonjour Sébastien, bonjour Fabien.
Bonjour.
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 Je vous laisse vous présenter rapidement pour commencer, puis après évidemment on prendra le temps de rentrer plus en détail dans votre parcours et dans l'aventure Poolhouse.
Je vais commencer, moi je suis Fabien, j'ai 49 ans maintenant, j'ai créé la société avec Sébastien et Elodie en 2017, ouais. C'est une idée qui avait maturé au long de l'année 2016, j'ai plutôt un parcours de marketing dans des projets financiers avant et puis ensuite dans l'assurance et puis ensuite j'ai monté ma première start-up dans les années 2010,
ouais.
Et là c'est la seconde expérience on va dire start-up et plus impactante cette fois-ci pour nous.
D'accord, et toi Sébastien ?
Moi Sébastien, 39 ans, papa de deux enfants, ouais. Donc également cofondateur de Poolhouse. On vous expliquera un peu plus en détail comment j'ai rejoint
ouais,
avec Fabien.
Évidemment, ouais.
Et moi j'ai un parcours plutôt marketing et dans le design en tant que directeur artistique pendant plus d'une douzaine d'années.
D'accord.
Et voilà.
Et alors vous deux, la fameuse question rituelle, pourquoi la bouffe ? Comment vous êtes arrivés dans cet univers-là ? Parce que donc si j'ai bien suivi, vous n'étiez pas issu de l'univers... Food,
c'est
bouffe.
Clair. Et ouais. Pourquoi l'œuf aussi
ouais,
parce
pourquoi
que,
l'œuf en détail
ce qui
évidemment.
Est assez drôle dans notre affaire, c'est que l'un comme l'autre, on avait réfléchi sur l'œuf avec des angles différents avant de se connaître.
Ah ouais
et ça a été une surprise quand on s'est retrouvés. Ouais. Donc moi, j'avais une réflexion depuis quelques années sur la question de la cause animale, en particulier, qui m'avait conduit à devenir végétarien en 2014.
D'accord.
Et à ce moment-là, voilà, les questions se posent autour du lait et des œufs assez naturellement. Et cette idée autour de l'œuf, je l'ai eu au cours de l'année 2016. J'avais pas forcément l'impression que j'allais faire une activité professionnelle dans la bouffe. J'étais plutôt dans la tech, dans le digital, dans les assurances, dans la fintech. Normalement, j'aurais dû monter une fintech à ce moment-là.
Ouais. Pourquoi tu es devenu végétarien ? Pourquoi en fait ? C'est quoi qui t'a...
Alors réellement, c'est vraiment la lecture des études des éthologues, toute la compréhension actuelle qu'on a de la cognition, de l'état intérieur des animaux.
Donc, confiance animale.
Absolument, qui a été bouleversée au cours des 15-20 dernières années.
Mmh.
Donc en gros, encore quand j'étais jeune, on voyait pas la possibilité qu'un animal ait ce niveau de conscience et du coup de capacité à ressentir aussi de l'empathie, mais de la souffrance, etc. Et à un moment, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est très très fort. Certains deviennent végétariens pour préserver la planète ou pour leur santé, mais quand on s'y intéresse par le biais de l'animal, ça change pas mal.
Donc toi, tu rentres là-dedans par le biais de l'animal.
Ouais.
T'es végétarien, pas végétalien, c'est-à-dire que tu manges des œufs encore ?
Je mange des œufs sans dissonance cognitive depuis que j'ai fait Poolhouse.
Ouais.
Et je mange encore du lait, enfin surtout du fromage, avec dissonance cognitive.
Et toi, Sébastien, c'est quoi ton... Pourquoi la bouffe ?
Pourquoi la bouffe ? Moi, c'est plutôt par le mieux manger. Et donc, comment je suis arrivé dans le projet de Poolhouse ? J'ai également entrepris auparavant un projet autour des poules qui était mapoulette.fr.
Ah, déjà ?
Oui, tout
d'accord.
À fait. Qui était de faire venir des bons œufs de la ferme en ville avec une poule qui s'appelle la Maran, des poules qui sont gustatives, qui font des œufs gustativement bien meilleurs.
D'accord, ouais.
Voilà. Et j'ai eu le problème du dernier kilomètre, donc ça n'a pas été la start-up, effectivement, auquel... il y a une continuité.
Ouais. C'était un abonnement, en fait. On s'abonnait.
On s'abonnait, on recevait ses bons œufs. Voilà, c'était sympa. Puis on pouvait informer les enfants aussi, David Lapoule, au fur et à mesure. Donc, il y avait déjà toutes ces idées-là.
C'était juste avant Poolhouse et c'était plus...
C'était trois ans avant Poolhouse.
D'accord.
Et comme je vous l'ai dit, j'étais indépendant et mon dernier projet était sur un projet sociétal, ouais, qui était Entourage, qui était sur le sujet de, en tout cas, d'aider les sans-abri via un réseau civique. Ouais. Et en fait, dans cette entreprise qui était gouvernée par Jean-Marc Potvin, qui est un ancien de la tech, qui justement s'était mis dans le solidaire, ouais, il y avait un CTO qui était l'ancien associé de Fabien, qu'on s'est rencontré.
Fait le go-between, ouais.
Ah, c'est lui, d'accord. Ouais. Et ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était fin 2016.
Okay.
J'avais cette idée que j'arrivais pas à me sortir de la tête depuis plusieurs mois. Je savais que j'allais relancer une start-up. J'étais dans un moment de vie particulier.
Ouais.
Je venais de sortir de ma précédente start-up d'une façon un peu brutale, parce que j'avais un peu été éjecté, ouais, par mon ex-associé.
Ouais. C'est agréable. Voilà. Des choses qui arrivent, malheureusement.
Des choses, ouais, qui font un peu mal. Et puis, j'avais aussi été éjecté de mon couple en même temps. Donc, c'était le pro et le perso qui s'écroule en même temps. Voilà. Et donc, je savais que j'allais remonter quelque chose, mais je savais pas encore quoi. Et voilà, cette idée me semblait la plus improbable, totalement en dehors de ma zone de confort. Je connais rien à l'agricole, rien à la grande distrie ou à la logistique. Et donc, je décide à un moment de me donner 2-3 mois pour l'explorer à fond.
Et l'idée dès le début, c'est quoi? Alors, c'est déjà là où on le connaît aujourd'hui,
de l'été 2016. Ouais. Je crois, ouais, que tu as sauvé des poules de l'abattoir.
Exactement.
Comment vient cette idée? Comment elle te vient précisément?
En fait, ça a été progressif. Je pense qu'aux nuits debout, j'avais rencontré dans la commission antispéciste des gens qui m'avaient expliqué la façon dont étaient élevées les poules.
D'accord.
Bon, c'était rentré dans un coin de ma tête avec une amie qui, elle, a sauvé des poules du GAEC du Perrin, qui était un lieu où il y avait eu une sorte de dénonciation par L214 des conditions d'élevage.
Ouais.
Et la décision du préfet d'abattre les 200 000 poules concernées.
200 000 poules.
Parce, ouais, que justement, voilà, effectivement, les conditions d'élevage n'étaient pas bonnes, mais la conséquence administrative, c'était quand même
qu'on les a désinguées. Ça réglait le problème.
Donc une énorme opération de sauvetage qui s'organise et une amie qui en sauve deux et qui me demande de venir l'aider à les ramener chez elle. Et là, je me retrouve confronté à ces poules et de comprendre que leur destin naturel était de toute façon de partir à l'abattoir. Je me dis quand même, il y a forcément moyen de faire autrement. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Combien ça coûterait? Aucune idée, mais ça vaudrait le coup de creuser ça. En gros, ce serait bien que quelqu'un s'en occupe, quoi.
Et toi, tu as dit, bah, c'est moi qui va. Qui...
Je me disais, ce serait bien que quelqu'un s'en occupe. Et à un moment, j'ai fini par me convaincre que si je le faisais pas, en tout cas, il n'y avait pas grand monde.
T'avais plein de projets à l'époque.
Ouais, j'avais d'autres idées.
Toujours dans la bouffe ou...
J'avais des projets dans la bouffe.
Pas uniquement, ouais.
J'avais des projets dans la bouffe, j'avais des projets fintech, j'avais des projets d'intelligence artificielle. Enfin, ça partait dans tous les sens, quoi.
D'accord.
À ce moment-là.
Et comment tu as convaincu Sébastien à te rejoindre?
On s'est rencontrés dans un bar, je m'en souviens très très bien. Et Fabien m'a exposé effectivement que les poules, en fait, était abattu à l'âge de 18 mois et que c'était assez massif. Hein. On parle de 50 millions de poules.
Toi, tu ne le savais pas avec...
moi, je ne le savais pas du tout. Quoi.
Et là, nous,
je ne le savais pas. On va parler beaucoup de ça, ouais, parce que ça nous a un peu choqué.
Ouais, on en parlera après. Comment moi, pratique de l'industrie agricole.
Et comment je suis arrivé dans le projet et comment, du coup, ça m'a convaincu, c'est que moi-même, j'étais persuadé qu'en fait, en informant les gens sur l'abattage massif des poules, ils allaient réagir. Tout à fait. Et moi, j'avais une image d'Épinal comme quoi, quand on achetait du bio, ce qui est mon cas avec mes enfants, je pensais bien les nourrir, qu'effectivement, en fait, il y avait une problématique que j'avais pas vue, c'est qu'elles soient abattues et qu'en fait, elles gambadent pas naturellement dans la nature comme j'imaginais.
Oui, c'est-à-dire que le bio, on y reviendra, ça suffit pas, quoi. C'est-à-dire que même dans le bio, il y a des pratiques qui sont pas terribles.
Et moi, je me rappelle très bien de ce rendez-vous aussi, et je cherchais pas un associé, je cherchais un web designer avec lequel je pourrais faire des tests sur Facebook pour voir si cette idée avait du sens.
Ouais.
Et c'est là qu'il me raconte qu'il a déjà réfléchi sur la poule.
Ouais, qu'il a déjà travaillé sur
qu'il a déjà monté des projets et tout. Puis il me dit, j'ai envie de devenir associé. Alors, je sors d'un moment d'association un peu difficile avec quelqu'un que je croyais bien connaître et tout. Puis finalement, non. Donc, j'hésite un peu et on se prend une période là de 3 semaines.
On travaille chacun de chez soi.
Pour découvrir un peu. Et,
on a même fait, on pouvait pas partir effectivement pendant 15 jours sur un bateau. Donc, on a fait un test.
On s'est posé toutes les questions de comment
la vision de valeur. Une société.
Ça c'est intéressant. Je m'arrête un petit peu là parce qu'on a des gens qui nous écoutent, qui se lancent dans des projets d'entrepreneuriat et qui cherchent un associé et que parfois rencontrent un associé qu'ils connaissent pas. Je pense que c'est intéressant de parler un petit peu plus de ça en fait, de quel type de questions vous vous posez.
Moi, le premier réflexe, c'est de me dire, c'est juste absolument pas la personne qu'il faut puisque c'est un gars qui est parisien, qui bosse dans le marketing, qui a jamais fait
de la grande distribution. Vous avez des profils trop similaires.
C'est Après, en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de monter des projets, de les piloter. Cette vision qu'on avait tous les deux des start-up tech.
Le lean start-up, le fait de tester avant de créer une société, c'était très
rapidement,
important.
Voilà.
Très rapidement. Pour nous, on n'était pas dans le modèle français de créer une société tout de suite et puis de voir comment elle marche, mais plutôt de tester l'idée et de voir s'il y a une appétence, en fait, et de valider le marché.
Le deal qu'on a eu, c'était si ça marche, on crée une boîte ensemble. Si ça marche pas, au revoir et chacun repart dans son coin. D'accord. Et on a investi 500 balles de tests.
Sur les réseaux sociaux.
Et c'était quoi les tests alors? C'était
les tests sur le réseau, ils étaient très simples. C'était de valider l'idée, effectivement, d'avoir un œuf qui ne tue pas les poules.
Donc alors, ça, au début, c'était déjà le claim depuis le départ. L'idée,
non, c'est
ça,
pas le claim depuis le départ. L'idée, le premier claim, c'est l'œuf qui sauve le monde.
Encore plus fort.
C'était un peu mégalo,
mais très haut, les gars.
Et c'est ça qui est super important, c'est qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Et tout de suite, on a eu une première communauté. On a eu 200 000 interactions à peu près en 2 mois et demi.
Mais juste une question, les tests, c'est un test que test des communications en fait sur les réseaux sociaux.
En fait, on avait créé une landing page effectivement. Ouais, Suite, on a fait une deuxième étape où on avait un e-store, un site d'e-commerce où on faisait croire que la boîte existait.
Il y avait pas de produit. Il y avait pas de produit.
On montrait une image d'un produit. On racontait l'histoire et on avait plusieurs pubs différentes, que ça soit en termes de phrases d'accroche ou en termes de visuel. Et on testait plusieurs cibles différentes et on regardait les taux de clic, on regardait ceux qui arrivaient sur le site, ceux qui appuyaient le bouton acheter. Quand on appuyait le bouton acheter, il y avait un petit disclaimer qui disait on n'est pas prêt, laissez votre mail. Et on a une première communauté qui s'est constituée sans qu'on le cherche. Ça a été finalement le début du projet. Là, qu'on avait déjà mis nos pubs sous le nom Pool House. On avait déjà choisi.
C'était déjà la marque.
Et en fait, les gens sont mis à liker la page qui était vide. Et donc, on l'a alimentée. De premier poste et les gens ont eu des interactions avec nous sur.
Mais cette approche dans la bouffe, elle est géniale parce qu'on voit souvent cette approche-là dans la tech. Pas forcément, on rencontre pas mal d'entrepreneurs et souvent on part tout de suite sur les produits. Et là, vous avez approché ça différemment.
Dans la tech, on va pas faire un produit, on va pas commencer à faire la première ligne de code si on sait pas. Et c'est très facile de sketcher une idée et de la vérifier auprès du consommateur.
Je trouve ça
on a pris conscience que c'était assez massif, c'est qu'on avait des taux de clics qui étaient supérieurs à 2%, ce qui est à peu près acceptable en fait pour valider une idée. On arrivait à 11%.
11%, c'est
énorme. Et après, on avait encore un taux de clic, enfin d'achat du coup, fictif de 7%. Et on avait vendu 3000 boîtes.
Qui venaient sur 3000 boîtes page 7 et essayaient d'acheter.
En investissant moins de 500 euros, on avait l'équivalent de 18 000 euros de chiffre d'affaires si les gens qui avaient appuyé sur le bouton acheter
avaient vraiment un produit.
C'est fort.
Là, on se dit quand même, il y a un truc. Donc là, on est convaincu déjà à peu près à Noël 2017 qu'on va faire le.
Du fait qu'il y ait une demande.
Noël 2016, ça.
2016, pardon.
Là, les réseaux, vous avez utilisé quoi? Les réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram.
C'est que Facebook.
C'est que Facebook.
Facebook et avec un site
commercial. La portée organique,
Et parmi les gens qui nous ont contactés en nous ayant repérés à ce moment-là, il y a une jeune ingénieure agro qui est devenue la troisième associée, Élodie.
Donc ça a marché pour prouver les concepts et pour recruter la troisième associée.
Parce qu'une fois qu'on a décidé qu'on allait se mettre ensemble, on a quand même fait le constat partagé qu'il manquait un petit peu de compétences agro.
Et la promesse à l'époque, c'était déjà de
tuer les poules. Ouais. Notre idée de départ, c'était on va assez facilement convaincre des éleveurs, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé 2 mois plus tard, de signer avec nous parce qu'on va leur acheter des œufs plutôt assez chers. Au lieu d'envoyer leurs poules à l'abattoir, on leur dira juste vous les envoyez dans notre ferme. Donc il y a pas de contrainte.
Moins cher.
En faisant de cette façon-là, les éleveurs vont être ok pour monter à bord. Et donc on a créé la société sur cette idée-là.
Et du coup, dès le début, il faut une ferme pour accueillir ces poules.
C'est ça.
Ça nécessite des financements, des choses.
C'est ça. Mais plusieurs fois dans ce projet, on a fait des choses qui étaient un peu impossibles. Donc là, on s'est mis d'accord en juin sur cette ferme et on l'a eu en septembre. Normalement, c'est beaucoup, beaucoup plus long avec la SAFER, etc. C'est un process.
On
n'y connaissait rien.
Bien sûr.
Mais je pense que si on avait été un peu plus sachant de toutes ces choses-là, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas faites dans ce projet.
On se serait freiné tout ça.
La troisième associée, c'est Elodie, c'est
Elodie, ça? Elodie, absolument.
Et c'est elle qui aujourd'hui pilote toute la partie un peu
production sur la ferme du Limousin.
Surtout la recherche et le développement, parce qu'on en reparlera, mais aujourd'hui, on est en train de travailler en R&D sur des projets.
Super.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la... Parce que là, justement, en préparant le podcast, on s'est un peu intéressé à l'industrie avicole. On a découvert ce qui a priori a généré le projet. Quelles sont justement les pratiques de cette, industrie, justement ces choses qui vous ont fait réagir? On a parlé de l'abattage des poules. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu tout ça?
Oui, je vais réexpliquer. Ouais. C'est une longue chaîne. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ça s'est complètement industrialisé depuis la fin de la guerre et que chacun en prend un petit bout. Donc, si on veut le faire chronologiquement, au début, on a le couvoir qui va, même on a un généticien qui va concevoir des souches de poules hyper optimisées pour pondre très fort. On a un couvoir qui va couver ses œufs jusqu'à l'éclosion.
C'est des races spécifiques. Une poule pondeuse, c'est pas la même race qu'une poule qui fera un poulet.
Et d'ailleurs, on en parlera après, mais la raison pour laquelle on va tuer les poussins à l'éclosion, c'est ça. C'est-à-dire que la race poule pondeuse, le poussin mâle, ça donnerait pas un bon poulet.
Donc ça, c'est un truc horrible que j'ai redécouvert hier. C'est avec le poussin, malheureusement, enfin à la naissance, quand l'œuf éclose, si c'est un garçon, on lui fait quoi?
C'est un animal qui est constitué, on le broie, en fait, on l'envoie dans une broyeuse, systématiquement, 50 millions en France par an pour faire les œufs.
50 millions de poussins mâles qu'on tue tous les ans.
C'est ça. Alors, voilà, et ça calme. Et c'est lié simplement au fait qu'on a spécialisé les poules, parce que sinon, avant, les poules pondeuses et poulets, c'était un peu les mêmes. Maintenant qu'on a des super poulets en 35 jours, avec beaucoup de blanc, c'est ça que le consommateur veut maintenant, plus que les ailes et la cuisse. Donc, on a optimisé des poules pour qu'elles utilisent l'aliment pour produire de la chair au bon endroit. On a optimisé d'autres poules pour qu'elles utilisent l'aliment pour produire de l'œuf. Et ça a donné deux races qui ont divergé complètement.
Mais aujourd'hui, si on voulait sauver ces poules pondeuses mâles, ces poulets de race pondeuse, ils seraient pas bons à la consommation vraiment
Non, ce serait plus long en fait.
Ce serait long, plus cher à produire, moins de chair au bon endroit. Donc il y a quand même des projets qui existent, qu'on appelle de double fin. Ça va exister marginalement, ça va donner des poulets un peu plus chers, mais qui seront pas forcément meilleurs. Ouais.
Il y a d'autres solutions.
Ça rassure.
Si moi j'élève des poules pour ma propre consommation, je pourrais enlever une race qui est entre les deux pour qu'elle puisse pondre des œufs et à la fin de sa vie, je pourrais la manger.
C'est-à-dire que chez les généticiens, on s'est extrêmement travaillé. C'est-à-dire les parents sont travaillés, mais aussi les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est sélectionné. C'est un travail immense. Donc on arrive à 320 œufs par an. Encore au tournant de l'an 2000, on était à 250 et après-guerre, on était juste à une centaine. Donc on a fait un niveau de production énorme.
Mais notre projet, effectivement, c'est un projet de bon sens. Vous parliez d'avoir des poules chez vous. C'est un peu ce que les grands-parents, arrière-grands-parents, ils avaient leurs poules.
On voit dans le monde rural aujourd'hui.
Ils les gardaient jusqu'à un âge de 6, voire plus. Après, ils les consommaient peut-être, effectivement. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont abattues prématurément à l'âge de 18 mois. Et en fait, elles sont envoyées en Afrique, congelées.
Pour finir de dérouler le process, elles vont rentrer donc chez un éleveur de poulettes pendant 17 semaines. On va les emmener du stade poussin au stade poulettes prêtes à pondre. Et seulement à ce moment-là, elles vont rentrer dans un élevage de poules pondeuses. Donc là, il y a 4 types d'élevage possibles. Ça peut être de la cage, du sol. Donc là, les poules sortiront jamais à l'extérieur. Ça peut être du plein air ou du bio. Et là, elles pourront aller à l'extérieur. Et elles vont vivre jusqu'à l'âge de 18 mois dans cet élevage où elles vont pondre pratiquement un œuf par jour. Et là, elles vont partir à l'abattoir.
À 18 mois.
À 18 mois.
C'est partout. C'est une règle qui est pratiquée dans toutes les
généralisées. C'est quelque chose qui nous vient finalement à l'origine des États-Unis. C'est une pratique agricole qui n'existait pas en Europe avant.
Parce que date de quelle époque?
Des années 50.
Et pourquoi
parce que ça date quand même. Moment de l'accélération.
Faute de productivité.
À partir de 18 mois, le rendement commence à baisser. Donc ça coûte plus cher. Il vaut mieux la zigouiller et en mettre une nouvelle.
En fait, on peut en parler. Disons qu'à 18 mois, il se passe aussi un phénomène, c'est que la poule va à un moment s'arrêter de pondre pour se régénérer. On appelle ça la mue.
La mue.
Normalement, d'ailleurs, elle fait une diète, c'est-à-dire qu'elle arrête un peu de manger, elle perd ses plumes, elle régénère son oviduc et sa grappe ovarienne, puis elle se remet à pondre sur un bon rythme, d'ailleurs, des bons œufs.
Peut-être même meilleur que celui qu'elle pondait avant, non?
On retrouve des œufs de la qualité un peu d'une jeune poulette, oui, effectivement.
D'accord.
On est en train de travailler.
Juste qu'il faudrait attendre. C'est le rythme naturel. Ça dure combien, cette pause?
C'est 3 semaines.
Et ça, les industriels vont pas attendre.
Non.
C'est un marché de centimes, en plus.
Oui, c'est ça. Les marges sont très faibles.
Quelque chose qui est totalement maîtrisé, c'est-à-dire que jusqu'à cet âge-là, il n'y a pas de raté possible, alors que dès qu'on allonge, on est sur des sujets où techniquement on peut rater un peu, on peut avoir un lot qui va moins bien fonctionner, donc on augmente l'incertitude pour les éleveurs, Or, les éleveurs, on leur demande pas ça, on leur demande d'exécuter sur 12 à 14 mois une façon de procéder qui va produire X, E à tel prix, et tout est cadré, et c'est la rentabilité est garantie. Quoi.
Juste pour rester sur l'industrie avicole, avant de reparler de Poulaouse et le lien voilà, avec ce qu'on vient de discuter, aujourd'hui sur le marché justement avicole, quel est le ratio entre les poules élevées en plein air, les poules qui sont encore élevées en cage, quelle est l'évolution de ce marché-là ?
Ça bouge énormément. Ouais. On était à 80% de poules en cage il y a encore quelques années. Ouais. Là, on est passé en dessous des 50 parce que, pas du tout, parce qu'une réglementation a évolué. Hein. C'est le consommateur qui a voulu changer d'avis et les distributeurs qui ont
accompagné
ce changement. Effectivement, les vidéos...
L214, prise de conscience de la souffrance animale,
WellFarm, CWF... Donc l'arrêt de la poule, enfin de la cage, c'est quelque chose qui vient par le consommateur, clairement.
Et là, on en est proche de.
Proche parce que tous les distributeurs ont annoncé à échéance, alors 2020, 2022, 2025.
Ah oui, d'ailleurs, en préparant ouais. le podcast, j'ai vu que c'était un sujet qui était monté au plus haut du sommet de l'État, parce que même Emmanuel Macron dans sa campagne s'était engagé à ce qu'en 2022 il n'y ait plus de poules élevées en cage. On en est où justement alors?
Stéphane Travers était arrivé plutôt aux États généraux en parlant de 2025.
Ah, on commence à décaler.
La filière a dit non, 2028, ce serait vraiment pas possible avant. Et puis finalement, la loi Egalim, il n'y a pas de contraintes. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt de la cage.
Vous êtes arrivé à un échec.
Donc, c'est une promesse
donc,
qui sera pas
tenue. Ça ne sera pas tenu en termes de réglementation. Par contre, ça sera tenu sous l'effet, sous l'impulsion des consommateurs et des distributeurs.
Voilà, qui prennent conscience de ça.
Sur les œufs coquilles, il n'y en aura pratiquement plus.
Un des distributeurs qui est Monoprix était le premier à avoir fait l'arrêt en cage. Effectivement, ça pousse et maintenant l'ensemble des distributeurs quasiment.
Donc c'est un distributeur qui s'engage à plus du tout commercialiser.
En 2012, il y a un choix de la filière de l'œuf en France qui est de suivre une discussion qui avait lieu au niveau européen d'agrandir les cages. Donc on avait l'équivalent d'un papier A4 et on rajoutait l'équivalent d'une carte postale pour leur surface d'existence pour toute leur vie, quoi.
Super.
Beaucoup de pays n'ont pas fait ça. Beaucoup de pays ont dit, OK, on va peut-être arrêter la cage. En fait, ça va pas le faire.
C'est un problème, hein.
Il y a un pays qui a dit, ah bah oui, on va investir pour agrandir, c'est la France. On a mis 1 milliard d'euros à ce moment-là, là-dessus. Et donc, du coup, forcément, ça fait des amortissements qui vont très, très loin.
D'accord.
Pour un truc où l'année suivante, 2013, Monoprix dit, tiens, moi, j'arrête la cage. Donc ils ont fait un procès à Monoprix à ce moment-là. Et ensuite les autres sont venus aussi. Donc d'un seul coup, ils ont investi sur un marché qui était en train de disparaître. Et forcément, c'est compliqué.
Donc c'est là où on rejoint le terme de consommateur.
Ouais.
C'est vraiment les gens via leurs achats qui changent en fait.
Ah ça, on est
les modèles existants quoi.
Oui.
C'est le consommateur qui peut faire changer les choses. Tu parlais de marché justement aujourd'hui pour situer les choses. Le marché de l'œuf en France, ça représente quel volume, quel valo?
15 milliards de vendus.
Là-dedans, vendus en coquilles, en grande surface, on doit être sur 7 milliards peut-être.
Ouais, c'est 60%, je crois.
En tout cas, en valeur en euros, c'est 1,7 milliard.
Ouais, d'accord.
C'est un gros marché
quand même. C'est quand même gros, ouais.
98% des Français mangent des œufs, donc ça concerne vraiment tout le monde.
D'accord.
On disait que la consommation moyenne, c'est
220.
220 par an par personne.
C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Hein.
C'est moitié des œufs qu'on mange à la maison comme ça, et l'autre moitié des œufs ovoproduits.
Alors, ovoproduits, c'est plutôt 40%, mais effectivement, c'est beaucoup. Des ovoproduits, on en retrouve dans presque tous les produits. Donc, c'est pour ça qu'on mange presque quotidiennement des œufs, parce qu'il suffit de prendre un biscuit ou de prendre une brioche ou n'importe quoi et on a de l'œuf.
L'œuf, c'est un produit du quotidien.
Par rapport aux poules élevées en cage, en fait, on a appris aussi que les ovoproduits, donc c'est majoritairement la source, ça vient exactement des poules qui sont en cage. Donc, mais ça, par contre, il n'y a aucune communication auprès des consommateurs. Nous, autant que consommateurs, on ne sait pas d'où vient cet œuf-là.
Là, vous touchez un point sensible parce que j'ai essayé avec certains acteurs ONG de soutenir un amendement qui a été rejeté il y a quelques mois, qui visait justement à rendre obligatoire l'affichage du code 0123 qui désigne le mode d'élevage sur les produits
juste
transformés.
Pour rappeler, donc 0 c'est bio, 1 c'est PLR, 2 sol.
0 et 1, les poules sortent à l'extérieur, retenons surtout ça, et 2 et 3, les poules sont claustrées toute leur vie.
2 c'est sol et 3 c'est cage. Okay.
Et en fait, nous on voulait que ça soit affiché aussi sur les produits transformés.
Oui. Donc là aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation.
Il
n'y
a pas d'obligation, il y a écrit œuf ou œuf entier, c'est tout. Ouais. Et on aurait voulu, parce que si on arrivait à ça, je pense qu'il y aurait quand même besoin pour tous les industriels et aussi les MDD, etc., qui utilisent de l'œuf, de se poser un peu la question, est-ce que je l'affiche, que je mets du 3 dans mon produit ou pas ? Et dans ce cas-là, est-ce que je ne vais pas vers d'autres modes d'élevage et ça pourrait avoir un impact ? Et l'information du consommateur a été refusée, ce qui est quand même...
Surtout que les codes, ils existent déjà sur les boîtes de coquilles.
Il n'y a aucun problème technique.
Oui, il suffit de dupliquer, en fait.
Bien sûr. Ils savent bien s'ils achètent du 2 ou du 3.
La traçabilité est là, donc ce n'est pas compliqué. Et comment tu as essayé d'en influencer ? Du coup, tu as soutenu un amendement, tu es passé par un élu.
C'est le genre de projet où, effectivement, on est en connexion avec un certain nombre d'élus et un certain nombre d'ONG.
On avait pris un engagement parce qu'en fait, on avait fait un crowdfunding sur KissKissBankBank, le gâteau qui ne tue pas la poule.
Ouais. Ouais.
Et on avait pris un engagement comme quoi, si on passait un certain seuil, effectivement, qu'on porterait auprès des élus.
Et
ça a débouché. Ça a débouché sur un amendement qui a été proposé. Et donc, c'est déjà ça et ça reviendra parce que l'information du consommateur, c'est un sujet aujourd'hui.
Surtout, le succès, on y reviendra après, évidemment, le succès commercial de votre marque montre qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des consommateurs.
Et on voit ça un peu partout. On a vu, par exemple, récemment, on était avec Célia Henneson, la directrice générale des réseaux VRAC. C'est un marché qui a été multiplié par 10 entre 2013 et 2019 parce que les consommateurs aujourd'hui demandent ça et les acteurs, ils doivent s'adapter à la demande des consommateurs. Et pour les œufs, ce sera pareil, en fait.
Bien sûr, nous, de toute façon, c'est ce qu'on fait avec notre claim « l'œuf qui tue pas la poule », c'est de l'information, de la pédagogie.
Je crois qu'on a pris conscience, moi, après avoir préparé, c'est à chaque fois, c'est ça. On prépare un épisode et moi, j'évolue dans ma consommation.
C'est des choses maintenant.
Forcément, on regarde ça différemment.
Ça va nous coûter cher, ça.
On est obligé. Quand on apprend que
une boîte.
Ouais, c'est gentil, merci.
Mais tous les poussins, quand on apprend que tous les poussins mâles, ils sont morts à la renaissance, que les poules.
Daniel s'en est parmi.
On tue 50 millions de poules par an en France, c'est juste dingue.
On tue 50 millions de poussins mâles, on tue 50 millions de poules de 18 mois.
En France,
juste pour la France. Donc ça fait 100 millions, c'est plus que 1 par personne. On coupe les becs de 50 millions de poules aussi pour s'assurer qu'elles ne vont pas se piquer entre elles. Et ces poules qu'on tue à 18 mois, je tiens à le dire aussi, on les mange pas vraiment en France. Elles sont congelées et envoyées en Afrique, dans des containers.
C'est une question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
C'est pour l'essentiel, où elles sont vendues là-bas comme du poulet, alors qu'en fait, ce sont des vieilles poules pondeuses d'Europe, et ils reçoivent des millions de poules de toute l'Europe comme ça. Et ça fout en l'air leur propre filière d'élevage parce que ça revient moins cher d'avoir ces poulets là que d'élever ses propres poulets. Et les éleveurs en France, ils revendent leurs poules aux abattoirs 5 ou 10 centimes. C'est vraiment...
Ils se débarrassent.
Ça n'a plus de valeur. Voilà, il faut s'en débarrasser et c'est tout. Donc c'est de l'obsolescence programmée en quelque sorte du vivant.
C'est clair.
Voilà.
Et du coup, donc, si on revient à votre projet, comment vous vous êtes organisé ? Donc on a compris comment était née l'idée. Comment vous commencez l'aventure là ?
On commence avec un crowdfunding.
Il faut un lieu pour une femme. Ah oui, en effet, il y a un crowdfunding.
Non, on fait un crowdfunding. On valide l'idée à plus grande échelle, effectivement, et avec de vrais consommateurs sur KissKissBankBank, en proposant l'idée d'un œuf qui tue pas la poule. Et effectivement, on aboutit à une première collecte de 25 000 euros.
L'objectif, c'était de financer quoi ? Sur la ferme ? Non, c'est quoi ? Non,
franchement,
pas 25 000 euros, tu vas pas loin.
C'était surtout d'objectiver qu'il y avait cette traction qu'on avait identifiée dans nos tests. On s'est dit, mais personne ne va jamais nous croire que des gens sont prêts à payer ce prix-là, parce que l'œuf, c'est quand même un sujet où on ne parle que de prix et de prix bas. Et donc, personne ne pensait qu'un œuf à 1 euro puisse trouver un client.
Oui, parce qu'on est passé vite fait sur le modèle. Là, le modèle, c'est d'acheter un œuf plus cher pour prendre... C'est pour ça que je parlais de retraite, pour prendre en charge la fin de vie, la retraite. Ça, en effet, un système de retraite par capitalisation, d'ailleurs.
On finance effectivement sur la vente des œufs, on met une petite somme de côté à chaque fois, et c'est effectivement une retraite par capitalisation, et cette somme sera déboursée à partir de l'année 3 de vie de la poule, progressivement en direction des éleveurs pour complémenter leurs revenus au-delà de la vente des œufs qui va baisser par un complément.
C'est ce que vous avez proposé dès le KissKiss ?
Non, au début, on disait on a notre refuge, et ce refuge accueille les poules. Donc on en faisait notre affaire de s'occuper des...
Donc en 2017, quand vous démarrez, c'était ça les modèles.
C'était ça l'idée. Et on pensait que ça serait tellement long à se développer qu'on allait tourner quelques années comme ça et on aurait le temps de voir bien nos poules vieillir, etc. Et tout a été plus vite que prévu.
Que prévu, succès commercial, c'est ça ?
Oui.
Mais juste pour, parce que sinon on va se perdre dans l'histoire, juste pour revenir. Donc vous levez 25 000 euros avec Kiss Kiss Bank Bank. Avec cette somme-là, vous achetez la ferme. C'est ça l'idée.
Non, ça participe à la création des bâtiments pour accueillir les premières poules.
On met de l'argent nous-mêmes.
Ouais. Et là, vous financez vous-même avec vos trois premières.
On trouve quelques amis qui nous aident aussi. On trouve aussi
Love Money.
On trouve aussi une banque qui nous a beaucoup aidé, qui est la Caisse d'Épargne. Je vais les citer.
On les salue.
Ils nous ont beaucoup aidé.
Une fois qu'ils nous aident.
C'était vraiment très très bien. Ils nous ont aidé à acheter cette ferme. Moi, j'ai remis de l'argent pour acheter la ferme aussi.
Elle est où la ferme? Elle est
en... Dans le Limousin.
Dans le Limousin.
De Limoges, ouais.
C'est une bonne vanne.
Sur 16 hectares, voilà, un espace.
Donc, c'est vraiment une maison
qui jusqu'à 18 000 poules.
Enfin, c'est pas qu'une maison d'entraide, parce que du coup, elle continue à pondre et on exploite.
Les poules qui sont là-bas, les œufs se retrouvent en magasin. Hein, donc, oui.
Et ces poules-là, c'est une question d'ailleurs qui nous a été posée par Christophe Duhamel, avec qui on a interviewé il y a une semaine et qu'on aura bientôt sur les podcasts.
Et qui est très réactif sur les réseaux sociaux.
Ouais, très engagé. C'est un des cofondateurs des Marmitons. Et la question qu'il nous pose, quelle est l'espérance de vie d'une poule chez Pool House versus la filière classique? Donc, la filière classique, c'est 18 mois.
La filière classique, c'est
18 mois. Elle n'a pas le choix. 18 mois, bim.
Après, l'espérance de vie, il y a deux types de réponses possibles. Disons que nous, on communique beaucoup sur le fait que l'âge maximum de vie d'une poule, ça peut être 6 ans, 7 ans, jusqu'à même 10 ans.
Ouais,
et c'est vrai. Maintenant, pour l'essentiel, les poules vont mourir autour de l'année 3, 4. En année 5, il y en a déjà vraiment moins de la moitié qui sont encore en vie.
D'accord.
Oui. Ça diminue assez vite, mais c'est un petit animal, c'est normal. Ils n'ont pas une espérance de vie.
C'est n'importe quelle race ou ça c'est aussi une évolution génétique qui...
On n'a pas beaucoup testé de races encore. On est sur les races de poules pondeuses que tout le monde utilise. Ouais. Et justement, notre R&D aujourd'hui, c'est de peut-être réintroduire des races qui avaient été mises de côté, qui pourraient se révéler plus efficaces dans la durée
sur
l'ensemble de la vie.
On revient sur les modèles de l'agriculture des variétés anciennes, en fait. Ouais, la notion de récupérer des variétés qui ont été abandonnées à cause d'une
meilleure productivité. Une ponte moins intensive, meilleure qualité de vie pour la poule.
Bien sûr.
Et plus de pompes dans le temps.
Finalement, ce qu'on se rend compte en général, c'est qu'il y a 10 millions de choix qui ont été faits pour améliorer l'efficacité, la rentabilité, la productivité, sauf que ces choix-là, pour les consommateurs, pour la planète.
Et c'est lié au prix.
Ils n'ont pas été les bons choix.
Ça a été fait silencieusement sans que le consommateur en soit informé. Voilà. Et donc, les glissements successifs qui conduisent à si on broyait les poussins. Sont arrivés sans que le consommateur le sache. Et à un moment, il apprend ça et se dit « Mais c'est quoi cette affaire ? Je suis pas d'accord.
Ouais, » d'accord.
Si on revient à l'histoire, donc là, vous achetez une ferme. Les premiers œufs que vous vendez sous la marque Pool House, c'est donc les œufs de ces poules-là ou c'est que vous commencez aussi à avoir des partenariats avec des œufs ?
Il a fallu envoyer des œufs.
Des
contreparties.
C'est le produit.
Voilà, donc on a trouvé un premier éleveur. Et après, une fois qu'on avait distribué tous ces œufs-là, les poules, elles continuent à pondre. Donc, il a fallu qu'on commence à chercher effectivement d'autres relais.
Les premiers
magasins dans Paris, c'était les premiers biocoops pour le coup.
Oui, on a fait d'abord quelque chose, on a rayé la ligne vente directe par internet de notre BP parce qu'au début on pouvait vendre en direct.
C'est vrai,
et lui il avait l'expérience, c'est pas sûr, il avait l'expérience de vendre sur internet.
On avait l'expérience de vente, mais on n'avait pas compris que les œufs ça s'envoie pas tellement bien par la poste. On a dû envoyer 700 boîtes d'œufs à Bank. On a eu un test grandeur nature que les œufs ça casse, sans douter. Donc on s'est dit non, il faut aller en magasin. Donc on a été voir
ça a commencé avec Biocoop.
Premier distributeur, premier magasin, c'est un Biocoop.
C'est un Biocoop, le premier qui nous fait rentrer. Après, on a eu d'autres magasins.
Parce que Biocoop, ils sont réputés pour avoir un cahier de charge assez exigeant.
Là, je parle de petits magasins
en local. C'est pas un référencement national encore.
Pas encore. On en parlera après.
On y arrive d'ailleurs parce qu'au mois de mai, on écrit à Biocoop en disant on est en test dans 5 magasins à Paris, ça marche bien. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble?
Tu trouves un contact dans la
Et là, ils nous font un gentil mail. Ils disent non, on travaillera jamais avec vous.
Ah oui, celui-là. Oui, les achats.
Par A plus B, vraiment, ça ne marchera pas, votre produit. C'est inutile.
C'est quoi leur argument, en fait?
L'argument, c'était le prix.
Le prix, ouais.
Alors après, on a appris a posteriori que c'était une personne qui avait travaillé sur l'idée d'allonger de 6 mois la vie des poules. Donc, on l'a chahuté son projet. Et nous, on est repassé justement par l'intermédiaire de Claude Greffa qui nous a orienté sur d'autres équipes.
Qu'on salue, donc on a eu l'occasion de faire un épisode avec lui, l'ancien président de Biocoop.
Et qui est venu nous voir à la maison des poules aussi.
Il est venu à la
Donc, tu as contacté Claude Greffa.
Et il nous a orienté vers des équipes au marketing qui avaient mis en place un dispositif qui s'appelait Jeunes Entreprises
de la Bio.
Ah, d'accord.
Ouais. Et il nous a proposé, il nous a dit, est-ce que vous pourriez être prêt pour un lancement en septembre 2017
au niveau national.
Ça va vite là.
On parle des quelles quantités là?
Pas de packaging.
On n'avait rien.
On
a dit oui.
Pas d'identité de marque.
On a dit oui, bien sûr.
Le nom Pull House, mais il n'y avait pas d'identité.
On n'avait pas le packaging, on n'avait pas la distribution, on n'avait pas les œufs.
Et là, c'est pour rentrer dans.
Pas les œufs, quoi. Mais on sait faire, c'est bon.
On a bossé beaucoup cet été-là. Et
là, c'est pour rentrer dans tout le réseau Biocoop.
Exactement.
Il y a, je sais pas. Bon, maintenant, il y a 600 magasins, mais à l'époque,
c'était énorme. C'était énorme pour nous. Et donc, le 4 septembre 2017, il y a 4 palettes qui sont prêtes à partir sur les 4 plateformes de Biocoop.
Et donc, ça, vous avez identifié des producteurs partenaires plus les œufs de votre ferme.
Oui, on a démarché nous-mêmes pas mal d'éleveurs, effectivement, qu'on a rencontrés personnellement. Du coup, c'est nous, les fondateurs.
On a trouvé 3 éleveurs auxquels on demandait toujours la même chose, d'envoyer leurs poules quand elles auraient atteint l'âge de 18 mois. Et
c'est toutes leurs poules, du coup. Le deal avec un éleveur,
c'était ça. À ce moment-là, c'était ça.
Mais
depuis, ça a évolué. C'est-à-dire qu'en fait, on a démarré sur cette base-là pour que ça soit plus simple pour eux. Puis on s'est rendu compte qu'ils aimaient bien l'idée de sauver les poules, qu'ils aimaient bien.
C'est les premiers qui aiment leurs animaux.
Et puis qu'ils savaient.
Ils l'écoutent pendant 18 mois.
Et qu'ils savaient quand même bien s'occuper des poules parce que c'était des professionnels. Et
on a apporté une meilleure rémunération à l'éleveur. Donc ça faisait quand même un package assez complet, quoi.
Et on en a deux qui nous ont dit, moi je veux bien les garder même après si on trouve un fonctionnement ensemble sur sa ferme, dans un autre bâtiment. Donc là, c'est là où on a commencé à faire évoluer le modèle parce qu'on voyait aussi les ventes grossir et on s'était dit.
Des nouvelles maisons de retraite.
Dans le Limousin, on allait vite arriver à saturation si ça grossissait trop vite.
Et on voyait pas aussi avoir plein de refuges sur l'ensemble de la France. C'était pas trop l'idée de départ. Et notre idée aussi, c'était de labelliser à la fin. Enfin, c'est notre ambition, en tout cas. Parce qu'on parlait des quatre codes dans les œufs.
0, 1, 2, 3,
4. Ouais. Et on pourra avoir le 0 plus, pour la partie éthique, plus responsable, par rapport au bien-être des animaux.
Oui, c'est de labelliser tous les éleveurs.
Et voilà. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est d'aller contacter directement les éleveurs avec le modèle de production. Finalement, ils s'installent directement chez eux. Mm-hmm. Et c'est plus fort. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est pour ça que
je pense que eux, ce sont les premiers à ne pas aimer les modes des productions actuelles. Ils sont rentrés là-dedans.
C'est ça. Alors après, on travaillait avec des éleveurs bio qui sont des gens très ouverts, qui déjà souvent ont fait un parcours personnel pour en arriver là. Ouais. On a un de nos éleveurs, il a commencé par de la cage, ensuite il a fait du sol, ensuite il a fait du plein air, ensuite il a fait du bio et maintenant il fait du pull house. Mm-hmm. Il a tout connu dans sa vie.
Bien sûr. Et ravi chaque fois d'épasser.
Exactement. Et ils ont appris beaucoup de choses en travaillant avec nous. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Il faut être honnête aussi parce que
sur le métier,
ils ont beaucoup d'expérience cumulée sur les poules, quoi.
Et juste financièrement, pour qu'on comprenne exactement comment ça marche, donc vous allez l'acheter déjà les œufs un peu plus cher qu'il se faisait acheter avant, et ensuite pour financer, donc c'est maison de retraite chez lui, comment ça se passe? C'est un pourcentage du prix d'achat qui est alloué à
nous, on leur verse une rémunération à la poule vivante,
d'accord,
qui vient compléter la vente des œufs,
d'accord.
Donc c'est du coup, il est incité à ce que les poules soient en vie, il est incité à ce qu'il y ait des œufs.
De retraite, quoi.
Exactement.
Et les œufs des poules vivantes, des poules en retraite, on continue à les mettre sur les marchés finalement.
Absolument.
Parce que d'un point de vue gustatif, c'est.
Ceux qu'on a le droit de vendre en coquille, on les vend en coquille. Ceux qui sont dits déclassés, ceux-là vont plus aller vers le marché de l'ovoproduit.
Sauf qu'on ne peut pas communiquer sur l'ovoproduit.
On
peut communiquer, mais on ne peut pas l'empêcher. Ouais.
On peut quand même en parler sur
son packaging. Oui, sur le packaging, on peut dire que c'est une poule.
Mais ils ne sont pas obligés, les industriels, à communiquer.
Non, non.
C'est ça.
C'est une opportunité qu'on leur présente.
D'ailleurs, globalement, quand c'est pas écrit, ça veut dire qu'elles ont été élevées en cage.
C'est clair.
Alors, 72%.
S'ils choisissent des œufs plein air, ils vont.
Là, c'était beaucoup trop tôt, si on est toujours dans la chronologie de 2017-2018. Ouais. Mais aujourd'hui, on a une équipe sur l'ovoproduit et sur le B2B qui est en train de parler avec des industriels qui utilisent de l'œuf.
Pour les inciter à le valoriser.
On a déjà un premier gâteau, un fondant au chocolat qu'on a fait avec
Franprix en commanding.
C'est le début, mais il va y en avoir d'autres. Et notre idée, c'est que notre promesse éthique, elle s'embarque aussi dans d'autres produits très facilement.
Du quotidien.
Et juste une question plus technique, en fait, la différence d'un œuf d'une poule jeune, 28 mois, et d'une poule qui est un peu plus âgée, c'est quoi, en fait, techniquement?
Ils sont plutôt un peu plus gros.
D'accord.
Quand on est en fin de cycle de ponte, il peut y avoir des fragilités qui interviennent dans la coquille.
Ça se casse plus facilement.
L'épaisseur de la coquille.
un blanc qui s'émulsifie moins bien dans une approche industrielle.
D'accord.
Après, post-mu, on a vu que les œufs redevenaient des œufs quasiment de jeunes poulettes. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on doit gérer des cycles à l'intérieur d'un cycle de ponte, des évolutions de l'œuf. Donc, on fait tout un ensemble d'analyses là-dessus. En tout cas, gustativement, ils sont toujours excellents. Mm-hmm. D'ailleurs, ceux qui ont des poulaillers chez eux le savent très bien. Quoi. on peut les consommer encore à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans sans problème.
Si on revient du coup sur l'aventure, donc vous commencez à avoir de la distribution, donc le virage chez Biocoop, hein, vous rentrez dans 300 magasins, derrière vous organisez la production et comment se développe la marque ensuite. La marque est importante, hein, on a vu, alors je sais pas de quand
peut-être
ça date,
en
mais
en parler, parce
vous
que...
avez travaillé très tôt sur la marque, vous avez créé une communauté, bon, on en parlait déjà avant, en avant-projet, il y a la campagne de Kiss Kiss qui certainement aussi a commencé à agréger une communauté engagée derrière la marque. On a vu la fameuse animation Pixar, ça date de quelle époque ça?
2019,
c'est très récent.
Mais vous avez déjà, dès 2017, vous travaillez déjà la marque, les réseaux, la prise de parole pour développer la désirabilité.
Le premier poste chez Pool House, ça a été un community manager.
D'accord, ouais.
Intéressant.
Le premier, parce qu'il y a un vrai défi, c'est d'aller éduquer les consommateurs et de créer une marque forte pour justement amener de la distribution.
Et d'expliquer, parce qu'effectivement, il faut informer les gens, il faut qu'on les questionne. Enfin, l'œuf qui ne tue pas la poule, ça pose des questions, quoi. Un œuf, ça tue une poule.
Il faut expliquer la démarche.
Derrière, il faut
la première fois que j'ai parlé de ça, j'avais pas compris. Ouais.
Tu peux dire comment t'as conçu ce logo?
Le logo, c'est un œuf avec un petit... Forcément, là, je partais avec un acquis en tant que directeur artistique, mais l'identité de Pool House, elle est indispensable, en tout cas à notre lancement. Et là, tu parlais du logo, en fait, qui représente très bien la société, parce que c'est l'œuf et la poule qui sont symbolisés. Mmh. Ça crée une identité très forte tout de suite. Bon, le slogan, on en a parlé, hein, il est testé par les consommateurs.
L'œuf ne tue pas la poule.
C'est vraiment le claim qu'on a sur tous les packaging et toute notre communication. Mmh. Et on a aussi un packaging qui est assez différenciant, parce que dans un rayon, comme je sais pas, vous en apercevez sûrement, en fait, toutes les boîtes alvéolées se ressemblent.
Ouais.
Il fallait émerger au sein du rayon avec une nouvelle proposition et avec, donc par la forme, mais aussi par le fond, parce qu'on avait quelque chose de fort à dire, qu'on n'abattait plus les poules.
Ouais.
Et on a beaucoup d'espace sur cette boîte pour communiquer.
Elle est très communicante.
Par rapport à d'autres boîtes où il y a juste une étiquette au-dessus, là, on a de quoi...
On sent qu'on a un directeur artistique, en effet, dans l'équipe fondatrice. L'identité de marque...
Je recommande à tout le monde ça.
Mais ouais, c'est vraiment... L'identité de marque est très forte. Je pense que c'est un actif et c'est un des sujets qui explique votre succès. C'est comme tu le dis, c'est qu'on comprend très vite, le message est clair et on a cassé des codes dans l'univers.
C'était important aussi, pour émerger.
L'école, ouais. Mmh.
Et la communauté, elle est tellement forte. En fait, on disait que vous demandez à la communauté, dès qu'ils voient vos produits dans les rayons de supermarché, s'il n'est pas bien mis en avant, vous leur demandez de prendre des photos et vous envoyer, même taguer la marque distributeur pour qu'ils puissent
réagir. Les fameux consommateurs. Ouais.
Ouais. Clair.
Que vous appelez d'ailleurs des ambassades d'œufs.
Des ambassadeurs. On a fait ça et c'est génial parce que les gens nous disent mais comment on peut vous aider? Alors il y avait effectivement des crowdfunding ou des moments de financement, mais les aides, c'est pas uniquement de l'argent. Déjà d'en parler autour de soi, de nous informer qu'il y a une rupture de stock ou qu'il y a un magasin où il faudrait qu'on vienne s'installer, ça nous fait gagner du temps. Maintenant on a une équipe commerciale qui peut embrayer sur ça. Et utiliser la communauté en soutien, c'est hyper puissant, quoi.
C'est clair, et ça montre à quel point les consommateurs, ils sont prêts à participer de l'aventure s'ils croient.
Et quand on veut être référencé au sein d'une nouvelle enseigne, en fait, on a déjà beaucoup de demandes de la part des clients et on peut aller les voir et dire, attendez, il y a déjà quelques milliers de consommateurs qui veulent la disposition des œufs au sein de votre enseigne, donc ça serait très bien, en fait.
C'est l'intérêt de la marque qui donne envie même aux acheteurs dans la grande distribution. Justement, après Biocoop, il y a d'autres enseignes de grande distribution qui sont venues vous chercher grâce à ça.
Bah alors, en fait, nous, on a fait des trucs plusieurs fois dans ce projet qu'on ne savait pas qu'il ne fallait pas faire. Donc,
le passage de la bio à la GMS.
Bah déjà, on n'en a pas parlé, mais par exemple, on s'est payé dès le début, ce qui est un truc
ça, c'est rare,
que personne ne fait.
Mais c'est pas bien.
Mais c'est n'importe quoi, parce qu'on a mis de l'argent dans la boîte et on s'est payé un salaire avec l'argent qu'on avait mis.
C'est la France.
Ça met la pression pour aller tout chercher du chiffre d'affaires.
Sauf que quand Biocoop te dit on ne travaillera jamais avec vous, vous vous dites pas je vais leur laisser un an pour réfléchir, vous dites je vais trouver une autre porte d'entrée. Ça vous met un coup de pied aux fesses pour aller chercher le chiffre d'affaires, donc c'est pas si mal.
Ça a toujours été moteur au sein de l'entreprise.
Et d'autres choses qu'on savait pas qu'on avait pas le droit de faire, c'est qu'effectivement on a dit ok à Franprix qui nous a dit j'aimerais accueillir vos œufs, et on savait pas qu'on avait pas le droit avec la même marque d'aller dans les enseignes bio et non bio.
Ouais, bien sûr. Donc c'est derrière sanction de Biocoop qui vous dit
Biocoop tousse un peu et Naturalia aussi, puis en même temps ils voient bien qu'ils viennent d'annoncer annoncé partout qu'ils accueillaient l'œuf qui tuait pas la poule, parce qu'il y avait 2 mois d'écart entre les deux. Donc ils disent, bon, bah, on va faire une dérogation pour vous. On fait partie des rares marques qui ont une dérogation.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, alors après, je vous dis pas que ça tousse pas encore des fois chez certaines enseignes.
Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les cas, en fait. Vous avez des œufs bio chez Biocoop et des œufs bio ailleurs.
Exactement.
Ouais.
Et ça, c'est... Bon, voilà. Après, nous, on connaissait pas toutes les finesses de la distribution spécialisée. Après,
une fois qu'on le savait, on avait acté de le faire parce que pour nous, c'était anormal comme pratique.
Produit.
Et nous, on est une jeune entreprise et en fait, les clients demandent votre produit. Les œufs, c'est en bas de chez vous. On comprenait pas. Donc, nous, on a pris le risque. En tout cas, on a dit, on y va. Et finalement, Biocoop,
c'est un sujet très important,
c'est un vrai sujet.
Parce qu'on est dans un sujet, aujourd'hui, on parle de transparence, et à un moment, même les enseignes spécialisées, enfin, il faut être transparent avec le consommateur. Si c'est le même produit, c'est la même marque.
Exactement. Et donc, l'enseigne spécialisée, on en a qui nous l'écrivent, préférerait que, on arrête la production à un moment, qu'on change les packaging, qu'on mette un autre packaging avec une autre marque et qu'on continue à rallumer la production.
Nous, on
n'y
croit pas en tant qu'entreprise. Ouais, c'est des lipos.
Et donc, demander aux marques de gérer
deux.
Il
faut que ça évolue. Mais on n'y est pas encore.
Mais c'est bien, on en parle et c'est, voilà.
C'est important.
Et c'est pas la première fois que ces sujets
montent. C'est un vrai
aussi
sujet.
Avec les deux vaches, c'est que pareil. Et finalement, les acteurs, ils ont deux marques.
C'est plus simple pour une filiale de Danone de gérer deux marques qu'une jeune start-up qui émerge.
Et aujourd'hui, vous avez un discours très fort, un engagement très fort. On parle de transparence surtout. Donc pourquoi créer deux marques alors que c'est le même produit, quoi?
Les poules maison, là.
La poule heureuse.
Et quand est-ce que donc on parle de la grande distribution, mais ça ceci c'était une deuxième explosion pour vous, parce que du coup on passe sur des volumes qui sont beaucoup plus importants, non?
Absolument. Donc la
Biocoop, c'est 2017, fin 2017, un contrat au niveau
donc
national.
La deuxième embauche, c'est la logistique, oui.
Oui. Ah ouais, on n'a pas parlé de la logistique. Ouais.
En chronologie, c'est Biocoop, Franprix, on fait tout de suite de l'export en Belgique.
Un peu de Belgique, ouais.
Belgique,
finalement.
Déjà.
Fin 2017.
Donc, en fait, l'année 2017, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Hein. C'est parce que le crowdfunding, c'est début 2017 et là, fin 2017.
Ça a toujours été comme ça. Ça
il y a un rythme de fou. C'est ce qu'on a découvert. 2018, 2019, et voilà.
C'est ce qu'on aime.
2018, on lève des fonds pour financer le déploiement de ce produit bio sur toute la France avec plus de puissance, et c'est là où on a fini par avoir ce deal génial avec Monoprix en 2018 qui nous a fait un vrai lancement national avec communication de la marque sur notre projet, présence dans tous les magasins.
Ça c'est très important. Ouais. Je trouve quand on a l'implication du distributeur avec votre projet, ça fait, enfin le déploiement est complètement différent.
Croit au projet, il vous met en avant, les prospectus.
Je peux le dire, c'est un vrai succès commercial. Ouais.
En tout cas chez Monoprix ça s'est passé très vite, très bien. On avait un engagement au plus haut niveau, donc on a appris entre temps. Hein. C'est vrai que on rentre pas par les achats, on rentre soit par la direction générale, soit par la RSE.
Vous avez contacté directement Régis Schultz ou je sais pas quoi. Non,
ah oui,
pas
voilà, on s'est croisé chez Europe 1,
qui était président de Monoprix.
Au salon de l'agriculture, et c'était une émission d'Europe 1 un peu particulière où il y avait une start-up qui était présentée. Bon bref, c'était nous en l'occurrence, et donc à la fin de l'émission, il me dit pourquoi on travaille pas ensemble. Je dis oui, on est bien d'accord. Et quelques mois après, il y avait le lancement avec toutes les équipes marketing et commerciales qui étaient à fond. Et ça a été...
ils ont fait bosser leur agence interne sur un slogan dédié.
Le petit conseil.
Il y a eu de la télé par rapport à ces lancements-là. C'était quoi?
Communiqué de presse, communication en magasin.
Ouais, en magasin. Ici, nos cocottes, c'est la poule douce. Donc, c'est vraiment un engagement de Monoprix.
Oui,
c'est ça très fort au sein du rayon.
Ouais,
voilà, comme il sait faire. Ouais. Et voilà.
Et donc... Ce tour de financement permet de structurer un peu d'équipe.
Ça reste
déjà
du crowd finance.
On va chercher des investisseurs. On a trouvé des family office et puis des investisseurs un peu particuliers, parce qu'on a Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjean qui ont investi à ce moment-là.
En 2018 alors.
En 2018, exactement.
Ça c'était quoi, 1 million d'euros, c'est ça?
Voilà, en equity 700, et à ce moment-là, on a vraiment eu un moment plus plus de possibilités d'agir, que ça soit en communication,
ça permet
que ça soit en embauche. Et donc on a
la logistique, t'en as parlé, c'était des embauches clés qu'on a fait,
parce que vous travaillez avec différents éleveurs. Donc comment vous gérez la logistique? Ils vous envoient les œufs dans une centrale et vous redispatchez, ou vous envoyez directement
ça
de l'éleveur?
Peut évoluer ça aussi.
En fait, les premiers éleveurs, on prenait soin d'avoir toujours des éleveurs qui avaient leur propre centre de conditionnement, qui pouvaient donc légalement conditionner les œufs, les mettre en boîte pour qu'ils soient mis en boîte.
Voilà, vous envoyez l'emballage.
On avait un transporteur qui prenait directement les œufs de la ferme.
Et donc, on envoyait des camions de la Steve dans la Pampa, dans la ferme, chercher les œufs, alors qu'en fait, bon, le marché de l'œuf n'est pas tout à fait organisé comme ça. C'est-à-dire que les éleveurs récupèrent les œufs. Il y a une tournée qu'on appelle de ramasse qui vient chercher les œufs dans toutes les fermes, qui ramène tout ça dans un grand centre de conditionnement qui ressemble à une usine, où là, les œufs sont mis automatiquement en boîte. Et pour un prix beaucoup plus faible.
Quoi. Bien sûr.
Mais votre structure.
Donc notre modèle de 2018, c'était chez l'éleveur le conditionnement, et on a travaillé toute l'année 2019 à basculer dans un modèle. On est obligé.
Oui. Comment vous faites maintenant? Alors vous êtes remis sur le modèle.
Alors on arrive sur 2019. En 2019, il s'est passé énormément de choses encore, mais notamment on a trouvé un partenaire dans l'œuf. Le premier de la filière qui nous ouvre les portes, et en l'occurrence c'est le groupe One Cocorette, qui est un grand, il fait plus d'un milliard d'œufs, qui est un peu historiquement l'inventeur de l'œuf plein air. Ils ont jamais fait de cage, dans les années 80 ils ont imaginé qu'on pourrait peut-être laisser les poules dehors, et à l'époque ils avaient été pris pour des fous.
Donc là vous retrouvez dans aujourd'hui. Les valeurs.
Oui. Et donc on se dit tiens, on va travailler ensemble, et donc on a la possibilité maintenant de bénéficier de capacités de conditionnement, de logistique bien plus optimisé que ce qu'on aurait pu avoir par nous-mêmes, et puis aussi d'avoir accès à des éleveurs qui sont
leurs éleveurs à eux.
Certains éleveurs à eux, on les récupère, on peut les faire basculer dans notre modèle, parce que eux ils sont partis plus dans une stratégie d'MDD jusque là où effectivement.
Et un point qu'on peut dire, enfin pour nous ce qui est important, c'était de pas tout réinventer aussi. Il y a des choses qui fonctionnent très très bien.
Oui.
Je voyais pas valeur ajoutée, toi non plus, de poule à housse à refaire un centre de conditionnement. Ça nous aurait pris des années. Oui, alors qu'il y a des gens qui font ça très très bien.
Oui.
Et par contre, notre force, c'est un cahier des charges éthique.
Oui.
Et également une identité forte, comme on a dit, une marque qui informe et qui apporte la solution. Et donc, c'est vrai que c'était un partenariat idéal, et on est ravis aujourd'hui.
C'est clair.
Et c'est quoi comme partenariat? En fait, ils sont rentrés dans les capitales.
Non, commercial. Voilà.
Service classique.
En fait, on est dans un moment où le marché de l'œuf évolue, on vient de le dire, la cage va diminuer pour s'arrêter, et il y a quelques acteurs qui se mettent en mouvement plus vite que d'autres.
Pour s'adapter à cette nouvelle réalité.
Exactement.
Finalement, vous avez fait pas mal de levées de fonds. Il y a eu deux levées de fonds, une en 2018
et une en 2019.
2, 3 millions. Et entre-temps, vous avez fait un peu de crowdfunding. Alors, on n'a pas eu de Kiss Kiss tout à l'heure, mais c'était plus pour de la com et des préventes. Vous avez fait My Options aussi, une campagne sur My Options.
Oui,
mais là, c'est du financement participatif au sens avec un.
Ça n'a pas, pas été un immense succès. Là, par exemple, on vient de refaire.
42 000 euros quand même. Oui, après, ouais, c'est vrai.
Oui, mais par exemple, on vient de refaire une collecte avec Mimosa récemment, qui a été très rapide, 300 000 et très
euros.
Efficace. Et on est très contents.
Et pourquoi on se posait la question, mais c'est intéressant de parler de ça, et à un moment donné, on va parler des financements avec les plateformes de crowdfunding, mais on a vu donc 300 000 euros avec Mimosa, mais ça reste quand même un argent qui est cher, entre guillemets, s'il a un intérêt de 5,5%, vous pouvez vous financer des taux plus intéressants ailleurs. C'est quand même un mix entre financement et faire parler de la marque.
Tout à fait, c'est de la communication.
C'est les deux, on pourrait aller le chercher en bancaire. Après, en bancaire, il y a d'autres contraintes. On va nous demander des garanties ou autres, alors que là, effectivement, chacun prend ses risques.
300 000 euros, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que c'est cher, 5,5. Mais bon, il y a en effet, comme je l'ai dit, le bénéfice de la communication.
Des bénéfices indirects.
On sait qu'on va rembourser ça sur plusieurs années. En même temps, on espère que dans plusieurs années, on sera en tellement bonne santé que ce sera pas un problème.
Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vous financent, en fait, ils deviennent des ambassadeurs encore.
Aussi,
tout à fait.
Ça
élargit la communauté avec des gens qui ont même prêté de l'argent pour votre initiative.
C'est ça.
C'est qui est sympa.
Et c'est un projet qui est déjà naturellement assez viral, parce qu'une fois qu'on a compris le truc, on a envie d'en parler autour de soi. Et donc, plus on élargit le nombre de personnes qui en parlent, c'est...
La deuxième levée de fonds, la plus récente, 3,5 millions, c'est un joli montant. C'était pour financer quoi, alors?
Alors là, on change de dimension.
Ambition de 2020.
Là, 2019. On est sur vos actualités.
Voilà, 2019, ça a été une année quand même incroyable, parce que ça a été l'année où on a fait arriver les premiers poussins issus de Sexaginovo en début d'année, en avril.
On en parle. Ça, c'est une méthode qui permet
d'identifier dans l'œuf.
Moi, c'était un dans la phase d'étude, avant même de connaître Sébastien, c'était un prérequis de se dire est-ce qu'on va savoir régler cette question pour les poussins mâles en même temps.
Donc, le fait d'éliminer les poussins mâles.
Si on peut pas régler ce problème-là, est-ce que ça vaut le coup de faire un œuf qui tue pas la poule, quoi.
Et donc, continuer à tuer les poussins.
Parce qu'on tue les poussins.
J'avais vu en 2016 qu'il y avait des projets qui allaient dans ce sens-là, qui avançaient en France et en Allemagne, et ça m'a décidé un petit peu à y aller. Et là, on a rencontré cette start-up en 2018 allemande qui avançait très très vite. Select, et puis la start-up française, enfin le groupe français qui faisait la R&D sur le même sujet, qui lui n'avançait pas et voulait pas nous recevoir.
Tronico,
il y en a pas 40. Qui avait eu un financement public assez important, hein, de 4,5 millions, et qui avait visiblement pas réussi à trouver la solution. Et les Allemands avaient trouvé. Donc on entend qu'en novembre 2018, ils sont prêts à lancer en Allemagne.
Alors quelle est cette solution ?
On va les trouver et on se met d'accord. Et on a le premier lot de poussins qui rentre en France en avril 2019, donc très peu de temps après, premier poussin arrive, alors que la filière était un peu dans un mode, c'est de la science-fiction, histoire de sexagénaux.
Comment ça marche
concrètement? On regarde dans l'œuf, en fait, on fait un minuscule trou, 0,3 mm, c'est vraiment très petit, et on aspire une petite goutte d'un endroit bien précis, et dedans, il y a des marqueurs hormonaux, qui sont déjà possibles de lire à partir du jour numéro 7 de l'incubation. Mais oui, ils le font au jour numéro 9 pour avoir un taux d'efficacité important. C'est une incubation qui dure 21 jours. Donc à cet âge-là, on a quelque chose qui est plus petit qu'un ongle et qui n'a ni conscience. Alors que déjà, et là aujourd'hui, on entend parler de technique à J+13, où là, on a un animal qui est formé, qui a des plumes, un bec, des pattes, qui communique avec sa maman à travers la coquille. Le moment où on arrête l'incubation est important. Donc là, J+9, ça nous convient.
Et en plus, ça permet de déterminer le sexe à ce moment-là.
Et on sait déterminer. Donc on ne va couver que les œufs qui vont donner des femelles. On va retirer les œufs qui auraient donné des mâles. Et on les envoie dans un circuit de pet food autre.
Ouais.
Et de cette façon-là, à la naissance, tous les poussins sont des femelles.
D'accord.
Et il n'y a pas eu broyage du coup de poussin mâle, c'est ça qui...
Voilà. On évite... Surtout, c'est plus un être vivant. Quoi, qui est né. Enfin, même si c'est peut-être vivant, là, il y a un débat éthique, philosophique,
c'est complexe, mais
on intervient plus tôt, donc il y a moins de conscience.
Plus proche d'un abortement, on va dire, par rapport à nous, c'est qui est peut-être des plus proches par rapport à ça, non?
C'est ça. Nous, en tout cas, on est à l'aise avec cette solution-là. Elle nous paraît vraiment efficace. Et donc, on l'a fait arriver en France. Et donc ça, c'est le début de l'année 2019. Et ensuite, la suite de l'année, eh bien, on déploie tout un projet en vue de créer de nouveaux produits et d'embaucher des nouvelles équipes et de senioriser entièrement le projet. Parce qu'en gros, on considère qu'on a démontré comme un proof of concept, on dirait dans les projets tech, que ça fonctionnait.
Déployer maintenant.
Maintenant, faut déployer. Et la question, c'est quel est le potentiel de cette idée de l'œuf éthique? Et donc, ça va au-delà du bio. Donc, on a ce débat sur est-ce qu'il faut sortir un œuf plein air ou pas, et on prend la décision de faire l'œuf plein air.
Donc ça, c'est élargit
la gamme. Ça, c'est 2019, ça.
2019, et la levée de fonds, elle vise à nous accompagner dans ce déploiement-là, qui nous permet de toucher beaucoup plus de monde.
Donc, une nouvelle gamme. Donc,
une nouvelle gamme.
Avec un prix...
3,99€ la boîte, ça permet de se rapprocher de prix que le consommateur peut comprendre.
Parce que la boîte aujourd'hui des bio, donc 6 œufs, c'est 5,99€, et Brunner, 3,99€.
Oui. Exactement. Et on décide aussi de faire une campagne de communication, donc c'est le fameux film
génial.
Dont vous parlez.
Génial ce film.
Ah, les films, ils viennent à ces moments-là.
C'est pour faire la promotion du produit plus. Enfin,
oui, parce qu'au-delà du bio plein air, en fait, votre débat, c'est le bien-être animal. Après, la question du bio, c'est qu'on va donner à manger aux poules.
Exactement.
Et puis si on veut sauver toutes les poules, il faut s'attaquer au marché conventionnel.
Voilà.
C'est ça.
Et là où il y a du volume, quoi.
Donc on n'ira jamais évidemment vers la cage ou
les
sujets de maltraitance.
C'est sur le sujet politique que vous allez le régler.
Par contre, sur le sujet du plein air ou du bio, on s'est posé la question. Et effectivement, du point de vue de l'animal, c'est ça notre réflexion de départ. Du point de vue de l'animal, on est dans des conditions d'élevage et de vie qui nous paraissent acceptables, aussi en plein air. Et on arrive à un prix de vente plus bas qui permet aussi à plus de monde de faire ce choix.
Si on veut avoir plus d'impact, il faut s'attaquer au marché plein air et pas uniquement bio. Donc là, vous lancez cette fameuse vidéo. Donc, comment vous est venue l'idée? C'est une grosse production parce que le film, il est génial. On se rappelle encore qu'on a un des fondateurs qui est un ancien directeur.
Non, mais on a fait beaucoup de choses par nos propres moyens. En 2017, 2018, on a fait aussi des petits films qui étaient communicants, mais on n'avait pas des budgets non plus assez massifs.
C'était de l'animation déjà en 2018
C'était déjà de l'animation, pas en 3D plutôt.
Dans les vidéos de vectorielles. J'ai vu des animations qui sont déjà pas mal.
Ouais, qui sont de. Ouais, qui
pas
sont
au
de...
niveau du truc.
Voilà, on avait déjà.
Pixar, mais ça.
Mais quand tu dis fais nous-mêmes, c'est quoi? Tu commissionnais un réalisateur
On avait notre réseau, on a des amis.
En fait, j'avais une copine qui faisait du stand-up, j'ai dit j'aimerais bien parler d'un truc, c'est un peu peu glauque, mais est-ce que tu pourrais me faire une façon d'en parler? Elle nous a fait un scénar. Ah, ouais. Toi, tu connaissais un gars qui faisait le dessin et une autre copine qui a fait la voix. Enfin,
d'accord. Voilà, bon, sans passer par une agence, c'est
voilà,
ça.
Avec des moyens. Puis il y a des moyens aussi de promotion, c'est-à-dire enfin promotion publicitaire sur les réseaux, tout ça qui était quand même assez limité, avec un bel impact déjà. Mm-hmm. Et donc en 2019, on s'est dit comment on fait pour informer massivement sur le sujet. C'était notre objectif. Donc on décide d'investir 1 million d'euros en communication, ce qui est beaucoup pour une jeune startup, on le sait.
À la fois pour promouvoir les contenus et faire de l'achat des sites, j'imagine.
Ça n'existe pas ce qu'on a fait. On a trouvé
un gros kick. Vous avez raison, et ça a de l'impact.
On a trouvé une agence. Non, on va dire qu'on a trouvé une agence qui était aussi folle que nous, parce qu'on a eu plusieurs propositions. Il y en a un qui est venu nous voir et qui nous a dit on va faire ça, on va aller sur TF1 avant le film de 20h30.
Sur une soirée. On a
une question. Combien ça coûte les prime time en TF1 parce que vous avez pris 8h50 dimanche?
Tu comptes juste pour ce passage-là, tu comptes 150 000 euros.
D'accord. Juste sur ces minutes-là.
Voilà. On est passé deux fois.
Vous l'avez fait deux fois. D'accord. Okay. Ouais. Déjà,
tu veux, pourquoi tu fais ça? C'est à la fois l'impact immédiat que tu as sur les personnes, qui est fort. En plus, on a eu la chance de passer, c'était un dimanche soir, mais il y avait Moi Moche et Méchant. Le lendemain, était férié, c'était le 11 novembre, donc les enfants étaient devant la télé. Bon, c'était vraiment le top.
Super, bien joué.
Puis on a eu un cadeau en plus, puisqu'on est passé chez Drucker. Ce jour-là avec Stéphane Bern qui parle de nous, donc vraiment
c'était
j'ai pas vu cette vidéo
mais au-delà de ça, si tu veux, ça assoit l'ambition d'un projet aussi en direction des distributeurs qui comprennent qu'on va être ce genre de marque
que vous avez,
exactement. Ça nous a permis d'ouvrir des portes, clairement.
Mais parce que le déclencheur quand même chez nous, une startup pendant ses problèmes solutions, nous on doit informer. On a ce supplément qu'on doit apporter, et donc effectivement de devoir toucher un maximum de consommateurs. Pour nous, on devait passer par ce film, et au final, on arrive à un potentiel de 120 millions de personnes touchées, ce qui est assez massif. Et aujourd'hui, on doit continuer maintenant à montrer la valeur perçue, plutôt en rayon, et c'est le travail aussi de 2020 avec la force commerciale. Mais au moins, les gens sont informés. Maintenant, il faut déclencher l'acte d'achat, que les gens comprennent bien, effectivement, les valeurs de l'entreprise et les actions qu'on mène derrière, qui sont effectivement le nom et pointage, le fait qu'on n'abatte pas les poules, et voilà, dès qu'on peut, c'est que ça agit nouveau qu'on introduit sur l'ensemble de nos gammes.
C'est vrai que ce film, il est quand même vraiment très bien fait, parce que le sujet, c'est un sujet qui est pas facile à aborder, qui est même un peu glauque. Voilà. Et vous arrivez à l'amener avec la bonne tonalité, qui donne envie d'en savoir plus. Il y a la voix off à la fin qui est très sérieuse, qui explique le truc. Donc j'imagine qu'en effet,
il faut rendre hommage aux équipes qui ont travaillé dessus, à la fois les équipes chez Brandstation et chez Wiz, qui ont eu un vrai plaisir en fait.
Il y avait un passionné de poule aussi.
Il y avait un passionné de poule
retrouver la réalisation et ça joue dans l'implication dans le degré de finition qu'il y avait. Je pense que ça a aussi joué.
On la mettra sur le site. Bon, on l'a mis déjà sur nos réseaux sociaux, mais on la mettra sur le site sur l'article pour les gens qui n'ont pas eu encore l'occasion de l'avoir.
Mais c'est ça qui fait de votre marque une marque très très forte, c'est que c'est un sujet qui parle à tout le monde et à partir du moment où on comprend la mission de la marque, tout de suite, c'est plus facile à fédérer autour de la marque.
Nous, on se considère comme une entreprise à mission, en ce sens que finalement...
Vous êtes Bicorp ou...
Pas encore,
ça fait partie du collectif.
On est dessus, ouais, effectivement. Et surtout que là, dans la levée de fonds, on a un fonds Impact qui a investi et qui peut nous accompagner aussi dans ces sujets-là, oui.
Très chouette. Si on parle juste des chiffres, on avait vu, donc 2019, vous avez fait autour des 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est autour de cet ordre de...
On est un peu en dessous, mais effectivement, ça c'est la clôture de l'année. Ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année, on a quand même une accélération, donc l'année se termine sur une tendance beaucoup plus forte. Ouais. Et là, pour nous, 2020, ça doit être l'année de l'équilibre, du passage à l'équilibre.
Parce qu'on allait poser la question par rapport à la rentabilité, donc 2019, pas encore.
On était plusieurs fois à l'équilibre.
On a été à l'équilibre par moment dans le projet, mais à chaque fois...
Forcément.
À
chaque coup,
pour réinvestir,
c'est
pour réinvestir.
Voilà. Ouais.
C'est normal.
Ouais, quand tu payes 1 million... Ouais. faire mal au PNL. Mais t'as un retour sur investissement aujourd'hui.
Bien sûr.
Gigantesque.
Et 2020, on a vu un article où on parlait d'une estimation entre 15 à 20 millions d'euros, c'est ça?
Voilà, on sera
c'est peut-être... ambitieux quand même.
C'est très ambitieux, c'est très ambitieux. Ça, c'est vraiment si tous les voyants se mettent bien au vert. Mm-hmm. Mais oui, on sera au-dessus des 10 millions, normalement dans tous les cas, avec le déploiement qu'on vise actuellement. On a beaucoup d'enseignes nouvelles dans lesquelles on va rentrer. En gros, on a ouvert Carrefour, on a ouvert Auchan, on a ouvert Grand Frais.
Ouais.
Et là, on est en train de travailler les trois autres.
Ouais, tu veux dire, vous êtes quasiment.
Leclerc, Système U et Intermarché. Voilà, on peut les citer.
On peut les citer. Donc là, l'ambition pour nous, c'est vraiment de dire on est partout. Et c'est logique puisqu'on se conçoit comme un segment de marché. Mm-hmm. Pour l'instant, on est les seuls à l'occuper. Mais on considère que tout le monde devrait avoir ce segment de marché à proposer aux consommateurs. Et demain, peut-être que d'autres viendront sur ce segment nous concurrencer.
Oui, il faudra innover, faire d'autres choses, continuer à faire bouger les pratiques. Et
c'est ça
les
qui est bon dans votre projet, c'est que vous montrez la voie et finalement, vous créez un nouveau segment dans le marché de l'œuf. Et après, si les gens, si vous avez ces succès commerciaux que vous avez, les gens seront un peu obligés à vous suivre, en fait. J'espère, pour nous tous et pour les poules.
Si le consommateur est présent, effectivement. Oui.
Et là, vous avez atteint votre mission. Bon, après, il y a la société qui va continuer à croître, etc. Mais la mission que tu t'es donnée il y a 4 ans, bravo, quoi.
Ouais, j'avoue que c'est hyper satisfaisant, mais pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont dans l'entreprise, de se dire le matin quand on se lève que c'est pour ça qu'on, qu'on agit et que on change le destin de beaucoup d'animaux. Quoi.
Félicitations. On va parler de la suite parce on s'intéresse à ce qui. Et là, dans votre cas, je pense qu'il y a pas mal des choses dans les pipelines. Donc, quelle est la vision, les plans d'événements pour la suite 2020? Tu parlais de donc rentrer dans des nouveaux distributeurs. Quelle est votre vision d'ici 5 à 10 ans, l'évolution des Pool House?
Je dirais la vision, la big picture, un peu long terme, c'est de penser qu'effectivement, il y a une redistribution des cartes sur la consommation des protéines animales qui est déjà entamée, avec une diminution de la consommation de viande qui est constatée en Occident, etc. Des alternatives végétales qui arrivent se financer avec vraiment des projets incroyables. Il y a aussi tous ces projets un peu clean meat, cultured meat qui sont là en embuscade. Nous, on pense que l'élevage a encore quelque chose à dire, et en particulier l'élevage éthique, responsable. Et dans l'œuf, on a peut-être une espèce de perfection possible où vraiment l'animal est, on est au petit soin avec lui sur l'ensemble de sa vie. Et on peut peut-être pas aller aussi loin que ce qu'on fait sur l'œuf dans d'autres domaines. Donc vraiment, on pense qu'il y a quelque chose. Et donc, du coup, dans ce cas-là, l'œuf, qui en plus est un aliment assez parfait, les nutritionnistes le disent tous, etc., pourrait être une protéine animale d'avenir qui se développerait. Donc ça, c'est la vision un peu long terme. Après, court terme, au-delà de ce qu'on fait là sur la France, et tout le déploiement des enseignes et tout le travail qu'on va faire sur l'ovoproduit et la restauration, évidemment, il y a la question de l'international.
Une ambition internationale.
On parle des 50 millions de poules tuées en France. Au niveau mondial.
7 milliards.
7 milliards.
J'imagine que sur le marché américain, ça doit être un carnage.
Ah, mais c'est clair.
Et donc, j'ose même pas vous demander les chiffres.
Non, mais c'est colossal. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on est les seuls et les premiers et les seuls dans le monde à faire ça. Il y a donc d'autres marchés où les gens sont sensibles à la cause animale. Il y a 10% de végétariens au UK. Les Allemands, ils ont un
tous
débat.
Tous les pays nordiques sont encore plus sensibles.
Ils sont très sensibles.
Il y a des initiatives comme la vôtre dans d'autres pays.
Nulle part.
Aux États-Unis, il n'y a pas des fous comme vous qui ont l'idée de faire ça.
Je pense qu'il y a quelques éleveurs responsables, et effectivement, qui n'abattent pas leurs poulets et qui les gardent. Ouais, mais c'est des élevages de
des projets
très
plus
taille.
Orientés sur l'adoption, qui est un sujet qui nous plaît aussi, mais qui est plus compliqué à gérer.
Adopter 7 milliards de poules.
Ça matche pas avec une approche qui doit quand même rester une approche de distribution large et de volume.
Bien sûr. Et mais du coup, le développement international, vous l'imaginez comment votre modèle, il est sympa parce qu'en fait, c'est pas une production en France qui va exporter dans le monde, c'est dans chaque pays développer des relations avec des éleveurs locaux.
C'est un cahier des, en fait, votre modèle, c'est un cahier des charges et une marque.
Ouais. Et effectivement, c'est hyper agréable de se dire aussi qu'on aide des éleveurs à se projeter vers l'avenir dans un moment où dans le monde de l'élevage, c'est compliqué et c'est dur de voir vers quoi on va, de se dire qu'il y a un moyen de faire son activité d'une façon certes un peu nouvelle, mais qui va être là durablement et qui va être bien rémunératrice. Donc c'est ça qu'on veut apporter, en fait.
C'est clair. Et d'un autre côté, on a aussi côté, on va dire, innovation, l'arrivée des ingrédients qui remplacent l'œuf dans des recettes, dans l'industriel. On était récemment avec une société qui produit des ingrédients à partir des micro-algues, donc ils font des mayonnaises sans œuf, etc. On a même découvert hier un concept qui s'appelle les Merveille œuf, une start-up française qui a conçu un substitut d'œuf à partir de la carte végétale.
Ils font
la coque et tout, on peut casser l'œuf.
Mais c'est hyper intéressant.
vision par rapport à tout
moi, je trouve ça hyper intéressant. On est tous en train de se poser un peu les mêmes questions.
Oui, avec donc, différentes solutions pour la même question.
On essaye d'échapper à la maltraitance animale en se disant, tiens, je vais mettre une alternative végétale, je vais mettre des algues, je vais faire un faux œuf ou autre. Ou on adresse le sujet dans les bâtiments d'élevage. C'est des approches très différentes, mais qui visent la même question. C'est comment on fait bouger les choses. Et moi, ça me va bien. C'est-à-dire, plus on a des consommateurs qui se posent des questions en profondeur, qui cherchent à comprendre les processus à l'œuvre derrière les aliments qui sont dans leur assiette, comment on en arrive à ce produit. Et pourtant, l'œuf, ça a l'air simple. On voit un œuf, on imagine la poule, on croit que c'est très simple, puis on se rend compte que non, en fait, il y a des containers frigorifiques qui partent en Afrique avec des vieilles poules qu'on a tuées. Et donc, voilà, nous, on accueille favorablement tout ce qui vient questionner le marché, quoi.
Et c'est intéressant de votre modèle par rapport à toutes ces innovations-là, c'est que vous venez à rajouter encore une couche de conscience dans un marché qui est déjà très gros. Donc, en fait, les consommateurs, il n'est pas obligé à changer son mode de consommation. Il va juste payer un peu plus cher pour un produit qu'il connaît déjà. Et là, quand même, on demande aux consommateurs un changement assez important.
Les alternatives végétales, enfin, moi, je connais beaucoup de véganes avec qui on a des discussions intéressantes souvent. C'est pas toujours évident. C'est-à-dire, l'œuf, il a des qualités particulières, émulsifiantes et autres, et selon la température, selon la façon dont on les bat, etc. On peut retrouver les mêmes éléments peut-être dans des alternatives végétales, jamais à 100%. Il y a un truc qui va être bien pour faire le cake, mais qui va pas bien marcher pour faire une crêpe ou autre.
De bouffe,
je suis d'accord avec vous. Les choses les plus simples, un œuf, c'est un œuf. Chacun peut le voir ce que c'est. On peut le consommer directement, on peut le transformer. C'est un aliment vraiment qui est au cœur de nos consommations. Nous, on préfère en rester à ce produit.
C'est déjà
là où c'est la bonne façon de faire des œufs.
Et juste une dernière question par rapport au développement international. Vous gardez la même marque Poolhouse ou vous...
Ah, c'est un vrai questionnement. Ouais.
C'est un vrai questionnement. Je pense que ça veut rien dire pour un Allemand Poolhouse.
Ouais, dans les marchés francophones, ok.
Il faudra probablement passer par là. Je dirais que c'est des problèmes de riches qu'on se posera
Vous avez une croissance très rapide. Puis à un moment, il va falloir aussi protéger ces idées là-bas parce que d'autres vont le faire dans d'autres pays. Donc il faut le faire vous-même.
Moi, je suis moins dans les batailles de propriété intellectuelle l'exécution rapide.
De toute façon, ce qui compte, c'est que ça bouge aussi. Mais après, bon.
Réellement, si on arrive à labelliser notre mode de production, je pense qu'on aura gagné l'ambition, en tout cas.
Ouais. Même créer un label, on parlait
Le label sans abattage, Giro Plus, qui embarquerait de ne pas tuer les poules, de ne pas tuer les poussins et de ne pas couper les becs, ça serait déjà une belle victoire. C'est vraiment une nouvelle façon de produire des œufs qui pourrait se développer.
Poolhouse aurait été précurseur, c'est parfait.
Ça, c'est top. Et on parlait aussi des produits transformés. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont sortir cette année, des choses que les gâteaux, vous pouvez nous raconter?
On a le gâteau qui tue pas la poule. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça?
Il y a des choses dans les tuyaux. On va plutôt avoir une stratégie un peu Poolhouse Inside, on dit, façon Intel Inside. On va laisser les marques utiliser notre produit, mais aussi probablement embarquer notre promesse. Éthique et notre promesse, mais aussi notre communication.
Il sera visible sur le produit.
Qu'à un moment, si on veut expliquer ça, le plus simple, c'est encore de renvoyer vers notre projet.
Donc ça devient vraiment un label. Votre marque devient un label pour eux, justement.
Et pour vous, c'est génial d'un point de vue notoriété, parce que vous allez être visible sur différents produits, quoi.
Et ça vous ouvre toute la distribution de ces produits transformés.
Un des axes qu'on travaille, c'est la restauration aussi.
La restauration.
La restauration, c'est un peu plus compliqué, non, pour communiquer.
On a déjà les premiers restaurants, des cantines scolaires qui travaillent avec nos œufs. Donc voilà, c'est
pour les enfants, des collectivités,
avec
pédagogie,
Et des chefs.
Oui, voilà, ça permet des chefs étoilés.
Mais dans la restauration, si je vais par exemple, je sais pas qui, je vais dans un restaurant qui achète des poules, des œufs Poolhouse, comment ils communiquent?
En fait, on a mis à disposition au restaurateur un macaron. Comme vous voyez, les Deliveroo et compagnie.
On utilise des œufs qui sont pas les
comme guide Michelin.
Et sur la carte, il y a aussi des
petits logos.
Vous avez des noms de restaurateurs à qui on...
On a quand même co-organisé, enfin, tu peux en parler, les championnats du monde de l'œuf meurette. Au château du Clos Mougeot l'année dernière. Et donc, tous les chefs ont travaillé avec des œufs Poolhouse. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup aimé parce que c'est pas facile. C'est un œuf poché, donc il faut vraiment qu'il se tienne bien. Et donc, il y avait 13 chefs en compétition. Toi, t'étais dans le jury.
Moi, j'étais dans le jury, ouais.
Ça, c'est vous qui l'avez organisé? Non,
c'est Claude Bougeau, mais on,
on
a été co...
On était partenaire de l'événement.
Oui, c'est quelque chose qui existait déjà, mais...
C'est
une première mondiale. donc, on a un champion du monde de l'œuf en meurette, hein, qui s'appelle Frédéric Verdon. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est
qu'il n'est pas
bourguignon. Il n'est pas bourguignon, qui est parisien.
J'avais vu un article de François-Régis Gaudry, c'est possible? Oui, il avait partagé ce truc-là. Il devait être présent.
Son restaurant est avenue Georges V, donc une belle carte étoilée. Et l'histoire continue pour nous avec lui, parce que maintenant il a mis les œufs poulaous à sa carte.
Il vous a référencé.
Et il raconte l'histoire en plus à ses clients, ce qui est assez agréable. Et pour ceux qui prennent l'œuf en meurette, le fameux sur lequel il a gagné, il offre une boîte à la table poulaous et il explique le concept. Donc quelqu'un d'engagé, effectivement, dans le sourcing et dans les belles histoires.
De toute façon, on le voit dans la restauration aujourd'hui, le consommateur, même le client dans un restaurant, il est intéressé par l'histoire du produit. Donc là, aujourd'hui, ça match et je comprends que ça intéresse en effet le client.
On passe donc sur les questions de défense. Ce sont des questions rituelles que nous avons à la fin de notre podcast. Donc la première, c'est quelles ont été dans ces trois, quatre années de vie de Pool House, votre plus gros échec ou apprentissage et la plus grande réussite, fierté?
C'est peut-être pas les mêmes, hein, pour toi et moi.
On va multiplier les expériences.
Vas-y en premier, si tu veux.
Ah non, dans les apprentissages, dans les recrutements, qui était assez clé, en fait, on a pu se tromper et on connaissait les valeurs de l'entreprise. On voulait senioriser sur différents points et on a dû réadapter plusieurs fois par rapport aussi à l'équipe, à qui on était et aussi la dynamique qu'on a, parce que vous avez vu qu'on exécute vite, rapidement, sur plein de choses. Donc, voilà, il a fallu adapter au fur et à mesure les process de recrutement et on s'est affiné. Aujourd'hui, on a une super équipe qui est cohérente pour exécuter la vision 2020. Je pense que ça, c'est important. Toi, je sais pas ton point pour le coup, mais
ben, en fait,
en échec,
c'est pas un projet dans lequel on a rencontré beaucoup d'échecs, on a rencontré des difficultés.
Plutôt des succès là.
Ça a été dur d'acheter la ferme, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Sur le moment, c'était énorme. On s'est dit, on va jamais s'en sortir. Plus d'une fois, on s'est dit, on est coincé, mais c'est l'aventure entrepreneuriale classique.
Mais c'est plutôt des apprentissages. Mais ce qui fait partie de l'entrepreneuriat.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire échouer. Échouer, apprendre. Et puis,
non, mais c'est ça.
Et puis, comme on l'a dit, test and learn, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on fait tout le temps dans le projet. Donc,
mais clairement.
Voilà.
Et fierté aussi,
oui.
C'est le sens du projet. Moi, j'ajouterais à titre perso d'avoir su retravailler en association sur un nouveau projet.
Ah, pour toi.
C'était important. De savoir remonter un projet et de le faire fonctionner avec une équipe et créer une bonne confiance et quelque chose d'efficace. C'était quelque chose d'hyper important. Et j'avais besoin de ça et je suis très content qu'on ait réussi.
Alors moi forcément c'était d'avoir créé mon propre produit. Donc là c'est par rapport à mon passé forcément et maintenant qu'ils multiplient effectivement de nombreux consommateurs l'utilisent au quotidien et avec du sens et du fond derrière c'est magique quoi.
C'est clair que toi autant que directeur artistique tu es parti sur un projet qu'a priori te faisais un peu sortir de tes sentiers battus, de ton expertise, mais finalement tu reviens d'une façon très forte.
Tes talents se sont exprimés régulièrement dans le projet.
Ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je retrouve, parce que bon, je peux parler de mon passé, mais j'ai fait de la musique, j'ai eu des labels, je fais plein de choses. C'est la créativité au sens large et on retrouve ça dans l'entrepreneuriat et c'est ça que j'aime personnellement, c'est que je retrouve avec Fabien, puis avec l'ensemble des personnes de l'équipe. Donc c'est ça.
Et on le retrouve particulièrement dans votre marque. Autre question rituelle qu'on aime bien poser, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui veut se lancer dans le secteur food? Sachant que je me suis noté quelque chose en vous écoutant, typiquement quand on développe un produit, si on veut le distribuer dans une enseigne, le meilleur moyen c'est de contacter le PDG, hein, parce que vous avez fait ça avec Bioco pour contacter Antoine Griffin, Monoprix, vous avez contacté Régis Schuss, bon, on s'embête pas avec les services achats.
En tout cas sur un projet un peu disruptif ou qui apporte un concept, oui je pense que le service des achats il est plus là pour trier parmi les offres existantes sur un périmètre donné, donc oui il vaut mieux.
Le marketing est très réceptif aussi, la RSE. Le
marketing,
et RSE aujourd'hui c'est important au sein des grands groupes.
Des sujets
eux-mêmes doivent se réinventer, donc s'il y a de beaux projets qui matchent avec leurs valeurs, je pense qu'ils seront écoutés.
Carrément. Donc la question c'était.
Ouais, il y a un conseil
pour un entrepreneur. Moi je dirais de s'associer déjà, c'est certainement le premier truc.
Moi je change pas, tester.
Tester. Que vous avez fait au démarrage, tester. Ça magnifique, ouais. Parce que j'avais pas encore vu une start-up et... food.
Quand vous avez pas parlé des échecs d'avant sur les tests.
Oui.
Enfin, moi j'en ai eu des milliers
aussi.
C'est
le bon moment pour faire des échecs en fait.
Ouais. Parce que c'est... Non mais c'était chou, ça vient pas ça qui vient avec ça.
C'est ça. En fait,
t'as rien dépensé, t'as rien investi.
Tu ferais pas ton produit d'emblée. Moi j'ai vu sur un salon une fois, on était à côté de des gars, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en R&D pour faire du vin sans alcool. Je sais pas, ça marche peut-être, c'est peut-être très bien, mais comment on fait 5 ans d'R&D
et les gens ils sortiront ça et vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'appétence pour les produits.
Oui, il n'y a peut-être pas de marché. Ouais.
C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans le podcast. Tous les entrepreneurs le disent, il faut aller à la rencontre du marché, il faut aller tester son produit, même s'il n'est pas parfait, mais c'est là où on va apprendre et c'est là où on va pouvoir finir de designer le produit.
Mais eux, ils sont allés tester sans le produit.
Il
n'y
avait pas encore le produit.
C'était ça, ouais.
Là, vous étiez très fort. Vous n'avez encore pas trop entendu ce modèle-là, mais c'est très bien. Plan bouffe ?
Oui, bah, donc pour finir, c'est toujours les bon plein bouffe à partager. On a élargi un peu cette question. Ça peut être un restaurant, mais aussi un livre, une émission télé, un film, un podcast. Ce qui vous a inspiré récemment.
Bah, plan bouffe, moi je parlerai bien à nouveau du resto 39
bah ouais.
De Lardon, parce que voilà, nous on a découvert quelqu'un de passionné qui... Enfin, c'est des artistes, hein, ces gars-là. Ils connaissent la texture de chaque ingrédient, comment ils se combinent à telle température. Enfin, c'est incroyable, c'est de la chimie ce qu'ils font. Hein, moi, je reste.
Et d'avoir un engagement personnel éthique, c'est quand même un beau. Ouais, donc 39,5 en restant.
Et s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, aux poules et qui voulait peut-être lire un peu plus pour comprendre mieux les modes des productions, est-ce qu'il y a des livres, des œuvres autour de ça?
Pour les modes de production?
Ouais, pour l'élevage des poules, en fait, si des poules pondeuses. Est-ce que si moi, je m'intéresse, je vais aller en profondeur dans les sujets, est-ce qu'il y a peut-être des...
Alors, moi, je dirais, si on veut aller en profondeur dans le sujet de la cognition animale, qui était un peu mon moteur personnel au départ, je recommanderais un auteur comme Franz De Waal, qui fait beaucoup de vulgarisation du travail des éthologues, et qui permet de bien comprendre, aujourd'hui, l'état de la connaissance scientifique sur ce qui se passe dans les têtes de tous ces animaux, et y compris des petits volatiles comme ça, parce qu'on dit quand même, on a des expressions, des cervelles d'oiseaux, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on comprend énormément de choses et on partage beaucoup avec eux. Donc ça, c'est ma conviction d'origine.
Super, très intéressant. On va, tout ça, on mentionnera en fait dans notre article, donc les gens peuvent aller en profondeur et trouver toutes ces informations-là. On va s'arrêter ici.
Parfait, super intéressant.
Merci
beaucoup
à vous.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.